En 2002, j'ai publié le livre sur les décisions absurdes où j'examinais les mécanismes des erreurs de décision. Dans ce nouveau livre, je suis passé aux solutions, entre guillemets, c'est-à-dire les principes fondamentaux de la fiabilité que j'appelle les méta-règles. Je prends la notion de fiabilité au sens large, c'est-à-dire c'est la qualité, la sécurité, la sûreté, mais aussi la performance, c'est-à-dire la conformité aux finalités. Et je vais parler des principes amont de la fiabilité et non pas des outils de la fiabilité. Pourquoi ? Par exemple, il existe beaucoup d'outils de qualité des réunions, mais si on applique les outils de qualité des réunions dans des réunions où on n'applique pas le principe fondamental du débat contradictoire, ces outils qualité seront inefficaces. Donc j'ai élaboré ces méta-règles en partant de l'étude d'une série d'expériences atypiques avec deux idées. Une première idée, c'était faire table rase de la pensée classique en management et s'inspirer d'expériences atypiques dans ce domaine. Et deuxièmement, avec l'idée que des processus observés dans ces situations peuvent être transposés à d'autres situations. Alors, quelles sont les expériences atypiques étudiées ? L'aéronautique et sa culture de la fiabilité, dont je vais parler d'un certain nombre d'accidents d'avion. Ce n'est pas que le transport aérien n'est pas fiable. La probabilité de mourir dans une opération chirurgicale est de 1 pour 1000, alors que la probabilité de mourir en avion est de 1 pour 4 millions. Mais les cas d'accidents d'avion sont des cas qui sont extraordinairement pédagogiques. Des activités qui sont réputées hautement fiables alors qu'elles sont très dangereuses, les porte-avions nucléaires, les sous-marins nucléaires, et là je m'inspire beaucoup d'une école américaine qui s'appelle l'école des organisations hautement fiables, des expériences innovantes dans le domaine de la santé, notamment le fonctionnement des équipes chirurgicales, des expériences atypiques comme le ski hors piste, les processus de décision pour franchir des zones d'avalanche, un processus de rédaction collective de comédie, la doctrine moderne des opérations militaires, la problématique des délibérations politiques, et également des pratiques de management ponctuelles mais stimulantes, le management visuel Toyota et des expériences intéressantes de la fabrication Renault. Alors, une considération préliminaire. Ce qui est important, et ça c'est fondamental, ce n'est pas l'organisation, ce sont les processus. Par exemple, si on prend un sous-marin nucléaire, eh bien la hiérarchie militaire est relativement transparente, relativement neutre. Ce n'est pas l'organisation militaire qui fait la sécurité du sous-marin nucléaire. C'est la collégialité qu'on observe à l'intérieur du sous-marin. De la même façon, une chercheuse, Mathilde Bourrier, a étudié 4 centrales nucléaires, 2 aux États-Unis et 2 en France, et elle a constaté que ces centrales nucléaires étaient organisées de façon très différente. Pourtant, elles sont de même niveau au point de vue sûreté. Et ce qui fait leur sûreté, ce sont les processus relatifs à la culture de sûreté et non pas leur organisation qui sont différentes. Donc le plan, vous le verrez, se dérouler en haut des diapositives. Je vais donc parler d'abord des méta-règles collectives. C'est la partie la plus importante de mon intervention. Et ensuite, je parlerai des méta-règles cognitives. Je passerai assez vite parce qu'on ne peut pas tout développer. Et ensuite, la conclusion. Donc, 11 méta-règles collective de haute fiabilité des actions et des décisions. Je ne vais pas les détailler chacune, je vais insister sur un certain nombre d'entre elles. D'abord, la hiérarchie restreinte, ce que j'appelle la hiérarchie restreinte impliquée. Ce que ça veut dire, que dans les organisations hautement fiables, les subordonnés ont un grand pouvoir de décision et la collégialité est privilégiée. Et le chef a deux rôles essentiels, un rôle de définition de la mission et puis un rôle en retrait d'organisation et d'affectation des ressources. Et cela signifie que ce qui fait pour moi la sécurité d'un cockpit, d'un porte-avions, d'un sous-marin nucléaire ou d'un bloc opératoire, ce n'est pas l'autorité, mais l'autonomie de décision et la collégialité. Alors voici un certain nombre d'exemples. Le cockpit moderne en aéronautique est fondé sur la collégialité du pilotage. Et Air France a pris récemment des décisions d'organisation du cockpit suite au crash de Toronto et au crash du Rio Paris. Elles sont allées, ces nouvelles règles, vers davantage de partage des responsabilités que vers un renforcement de l'autorité. Après le crash de Toronto, il a été décidé que le copilote pouvait décider une remise des gaz. Après le crash du Rio Paris, il a été décidé que s'il y a deux copilotes aux commandes, c'est le copilote le plus junior qui va piloter et le copilote qui a un peu plus d'expérience qui va être en retrait en monitoring du copilote qui pilote. En matière d'équipe chirurgicale, il y a une étude qui montre que c'était les équipes les plus démocratiques, entre guillemets, qui ont eu un taux de mortalité chirurgicale inférieur par rapport aux autres équipes parce qu'elles appliquaient mieux les nouvelles techniques. Concernant les porte-avions qui ont été beaucoup étudiés par l'école des organisations hautement fiables, eh bien, cette école insiste sur le fait que des non-gradés peuvent décider d'interrompre un appontage. J'ai une petite expérience, j'ai navigué quelques jours dans un sous-marin nucléaire français et il y a deux anecdotes, je ne peux pas rentrer dans les exemples, ça nous prendrait trop de temps, donc je vais en rester aux anecdotes. Une première anecdote, c'est que les officiers manifestent la priorité à la collégialité dans le sous-marin par la tradition d'enlever les galons, ces galons lorsqu'on part en navigation. Et d'autre part, j'ai vécu une petite expérience étonnante. J'ai proposé en navigation au commandant de faire une conférence aux officiers, à l'équipage. Et il m'a fait cette réponse étonnante. Il m'a dit « Ah, mais il faut que je demande l'accord de l'équipage. » Donc le seul maître après Dieu ne pouvait pas organiser de lui-même une conférence. Il fallait qu'il ait l'accord de l'équipage. Ce qui est très significatif de la décentralisation dans ces contextes. Également la rédaction totalement démocratique des pièces du Splendid. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi le cas des randonnées hors piste et des décisions pour éviter les avalanches. Il y a une étude qui montre aux États-Unis que les équipes qui avaient un leader fort, les randonnées qui avaient un leader fort, avaient plus de morts dans des avalanches que les équipes qui n'avaient pas de leader fort et qui étaient davantage démocratiques. Alors, bien sûr, il faudrait confirmer cette étude par des contre-expertises, etc. Mais c'est assez intéressant qu'on ait au moins un résultat comme ça. Alors, des contre-exemples, c'est celui de Korean Air, qui aujourd'hui est très très bien placé au point de vue sécurité, peut-être même devant Air France. Il faut savoir que dans les années 90, Korean Air a connu une douzaine d'accidents, dont certains mortels, et le diagnostic qui a été fait, c'était que ces accidents était largement dû à un excès d'autorité dans le cockpit. Et notamment, il y a eu plusieurs accidents où le commandant de bord a commis une erreur et le copilote n'a pas osé lui dire, compte tenu de la hiérarchie asiatique, n'a pas osé lui dire qu'il se trompait. Deuxième méta-règle, le débat contradictoire. Les délibérations, alors je vais m'intéresser aux délibérations. Les délibérations sont constante dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, dans la vie démocratique, mais elles sont perverties par un certain nombre de pièges, si bien qu'elles sont souvent désastreuses. En effet, elles sont soumises à neuf effets pervers que je vais résumer ici. Un premier effet pervers, c'est l'effet de polarisation. La discussion accentue l'opinion majoritaire. C'est-à-dire que si vous avez 8 personnes pour A et 4 personnes pour B, eh bien, contrairement à ce qu'on pense, la discussion va renforcer l'opinion A. Le 12 hommes en colère qui deviennent sages, c'est un mythe. Quand 12 hommes en colère discutent, ils deviennent encore plus en colère. C'est ça l'effet de polarisation. Deuxième effet, le paradigme de H. Le paradigme de H veut dire ceci, c'est que lorsque quelqu'un est conscient d'une erreur, mais qu'il est devant un groupe qui soutient l'erreur, il aura tendance à penser que c'est lui qui se trompe. Il y a des tests qui ont montré clairement ceci. Troisième effet pervers, la pensée de groupe. Ça veut dire que la bonne entente va être privilégiée dans le groupe au détriment des désaccords utiles, ce qu'on appelle group sync en américain. Quatrième effet pervers, les erreurs de communication tacites. Dans mon livre précédent, j'avais développé l'exemple de la promenade à Bilène. Cinquième effet, c'est l'illusion de l'unanimité. On dit on y va, personne ne s'oppose, et puis on pense qu'il y a unanimité alors que ce n'est pas vrai. Sixième effet, le biais de confirmation. C'est la tendance à ne retenir que les arguments confirmant sa propre opinion. Septième effet classique et très, très fort, la crainte de mécontenter le chef et la volonté de lui plaire. Lorsque je discutais avant le début de la conférence, un chirurgien anesthésiste me rappelait qu'il avait eu l'écho d'infirmière qui, en salle de chirurgicale, voyait un chirurgien oublier des compresses dans le ventre du patient et personne n'osait lui dire. Huitième effet, l'effet du nombre élevé de participants. Bon, c'est classique. Et neuvième effet, l'incidence néfaste des règles bureaucratiques telles que ne pas insister, si on n'est pas spécialiste, on ne dit rien, etc. Alors, compte tenu de ces neuf effets pervers extrêmement puissants qui pervertissent les délibérations, le débat contradictoire est indispensable. C'est-à-dire qu'il doit être organisé et conséquent. Il ne va pas de soi. Il nécessite du temps et on peut faire l'analogie avec le débat contradictoire de type judiciaire. Bernard Manin, qui est un politologue et philosophe, estime que pour échapper aux effets pervers de la délibération, il n'y a pas d'autre solution qu'un débat de type judiciaire dans les réunions. Alors, quelles sont les modalités possibles? C'est la procédure d'avocat du diable au sens propre, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il y a eu la crise des missiles, John Kennedy avait demandé à son frère Robert Kennedy, pour éviter la répétition du fiasco de la baie des cochons, de jouer le rôle d'avocat du diable dans le comité de suivi de l'affaire des missiles. Ou bien l'examen d'une contre-proposition minoritaire. Dans l'US Navy, l'amiral Rickover, quand on lui présentait un projet de décision, il disait « Je ne prendrai pas la décision tant qu'on ne m'aura pas proposé une décision minoritaire avec des arguments et bien développés. » Ou bien le recueil de l'avis de Candide, des généralistes sur un sujet spécialisé ou de spécialistes sur un sujet général. Enfin, l'attitude interrogative systématique, c'est un principe de la culture de sûreté nucléaire, l'attitude interrogative, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, l'autre va lui poser la question, est-ce que tu es sûr que tu as bien fermé, tu as bien remis en automatique la vanne qu'on avait ouverte manuellement. Le contrôle du consensus, alors compte tenu des neuf effets pervers de la délibération, un consensus, parce que consensus n'est pas nécessairement bon, alors que le consensus est très valorisé. Il peut être médiocre, voire calamiteux. Il y a l'exemple du comité qui a décidé l'opération de la baie des cochons, qui était un consensus tout à fait calamiteux, ou bien il peut n'être qu'apparent. C'est Philippe Urfalino qui a développé cette idée. Il cite par exemple dans un article un parti politique suisse dans lequel il y a eu 172 décisions par consensus apparent. C'est-à-dire que ce n'était pas la majorité, c'était, on fait comme ça, personne ne s'oppose. Et après, les chercheurs ont eu la curiosité d'aller regarder ces décisions et ils se sont rendus compte que sur les 172 décisions au consensus apparent, il y en avait 50% qui étaient en fait minoritaires. Donc on croyait que c'était des décisions à l'unanimité. Ce n'étaient même pas des décisions à la majorité, c'était des décisions minoritaires. Alors le consensus doit être contrôlé, c'est-à-dire en recourant à la méta-règle du débat contradictoire. Alors il y a une réaction extraordinaire qui constitue une parabole en droit pénal talmudique. C'est le cas de la condamnation à mort par le tribunal de 23 juges. Eh bien, il y a une règle, je l'ai vérifiée auprès de Claude Rivlin, qui dit que s'il y a unanimité des 23 juges, eh bien, cela entraîne automatiquement l'acquittement de l'accusé. Et pourquoi? Parce qu'on considère que si les 23 juges sont unanimes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment débat contradictoire. Ensuite, quatrième méta-règle, l'interaction généralisée, constante et éducative. Alors, je ne vais pas développer, je vais dire simplement que la haute fiabilité implique un flux permanent d'échanges d'informations en tous sens, briefing, débriefing, attitude interrogative, contrôle croisé, etc. Ce que je dirais ici simplement, c'est que ces interactions quotidiennes présentent la particularité d'être en même temps de la formation qui est intimement mêlée à ces interactions. Par exemple, les équipages ont l'habitude de désigner un sous-marin qui est en opération, ils appellent ça l'université, tellement les équipages se forment, relisent des photocopiés, font des tests, etc. Et l'école des organisations hautement fiables, qui a étudié les porte-avions, disait « les porte-avions sont de gigantesques écoles ». Le contrôle des interstices, je vais passer très rapidement. Ce que j'appelle interstice, c'est la multiplication des lieux où des fractions d'organisation sont en contact. Alors ça, c'est très à la mode. Hein, on crée des coopérations, des externalisations, des filialisations, des dissociations de fonctions, des mutualisations, des séparations géographiques, des créations d'entités nouvelles pour chaque nouveau problème, etc. Mais les interstices sont une source de grande fragilité. Dans les erreurs, accidents, catastrophes, contre-performances, eh bien, l'existence d'interstices est souvent en cause. C'est le cas de la marée noire du golfe du Mexique, du médiateur où il y avait une quinzaine d'intervenants, de la séparation SNCF-RFF dont Pépi aujourd'hui se mord les doigts. Alors, en cas d'interstice, je ne vais pas détailler tous les processus qu'on peut mettre en place, dire deux choses, c'est d'abord bien réfléchir aux coûts-avantages de la création d'un interstice, et deuxièmement, créer des modes de coopération qui ne soient pas uniquement de l'amélioration de la communication, c'est-à-dire des indicateurs communs, l'organisation de principes de coopération. Sixième méta-règle de fiabilité des actions et des décisions, je ne vais pas trop en parler puisque j'avais déjà présenté le sujet ici, c'est la non-punition des erreurs non intentionnelles. Alors, quels sont les fondamentaux de la non-punition des erreurs non intentionnelles. Un premier point fondamental, c'est que le risque de punition dissuade les acteurs de faire connaître les problèmes. Hein, si on prend le cas actuellement de l'enquête sur le Rio Paris, eh bien Air France, le BEA, Airbus, les pilotes sont tous sur la défensive parce qu'il y a la perspective du procès pénal. Et s'il n'y avait pas de procès pénal prévu, eh bien je pense qu'il y aurait beaucoup plus de débats entre tous ces acteurs, cartes sur table. Deuxième fondamental de la non-punition des erreurs non intentionnelles, c'est que la punition a un effet réducteur sur la connaissance de ce qui s'est passé. Les organisations sont systémiques et lorsque on va punir, eh bien on va mettre l'accent sur un facteur, le coupable. On ne va pas voir tout l'enchaînement qui s'est produit. Et il y a un bon exemple récent, hein, c'est le crash du Concorde. Les juges sont allés sanctionner un pauvre chaudronnier du Texas qui s'est demandé ce qui lui tombait sur la tête et ce qui a mis de côté hein, toutes les responsabilités des concepteurs de Concorde sur la conception de Concorde et d'Air France sur la maintenance du Concorde. Et j'ai assisté à une conférence à Washington par le patron du National Transport Safety Board. C'est quand il a abordé la non-punition, c'est le premier exemple qu'il a cité. Alors bien sûr, la non-punition exclut l'erreur intentionnelle. La non-punition ne signifie pas laxisme, bien évidemment. Alors je vais donner deux exemples. Alors un exemple qui pour moi est extraordinaire, c'est celui de l'armée de l'air. Parce que l'armée de l'air, c'est l'armée, ce sont les militaires, c'est la hiérarchie, le respect des règlements, etc. Eh bien l'armée de l'air a institué officiellement l'impunité des erreurs. Et en 2006, il y a eu une déclaration du chef d'état-major de l'armée de l'air qui dit ceci, nous devons faire profiter dans un but didactique l'ensemble de notre communauté de toutes les expériences aussi désagréables soient-elles. C'est pourquoi j'ai décidé d'engager une démarche de dépénalisation des erreurs. Et j'entends par erreur tout écart involontaire et non répétitif aux objectifs ou intentions. Je garantis notamment l'impunité à tous les auteurs de « j'ai vécu ». Les « j'ai vécu », ce sont les retours d'expérience, qui sont donc anonymes. Et ça a fait bondir, bien sûr, les juges qui ont dit « mais il n'y a que nous qui pouvons dépénaliser ». Alors, l'état-major de l'armée de l'air a dit « c'est comme ça qu'on appelle chez nous l'impunité des erreurs, donc on ne va pas changer le terme, on va continuer comme ça ». Et il y a le système Air France, avec le Quick Access Recorder, qui est un disque optique numérique qui enregistre tous les paramètres de vol et on relève les paramètres non standards. On interroge de façon anonyme les pilotes sur ces écarts. Les plus intéressants sont étudiés par une commission et sont diffusés dans l'entreprise pour éviter d'autres erreurs. Et aujourd'hui, le principe de non-punition commence à diffuser, notamment dans les métiers de santé, chez les pompiers aux États-Unis, dans les métiers de santé en France, mais il y a de fortes résistances des victimes qui attendent que des coupables soient en prison, de la justice pénale qui préfère punir plutôt que faciliter la sincérité des témoignages et l'accès aux faits. Il y a l'exemple d'un crash d'hélicoptère en Italie où les juges ont empêché l'accès à l'épave. Du coup, on n'a pas pu voir ce qui s'est passé. Un autre hélicoptère s'est crashé quelques temps après. Et du pouvoir politique, on connaît la réaction de notre président actuel qui, lorsque se produit un problème quelque part, limoge aussitôt le responsable. Le contrepoint de la non-punition des erreurs, c'est ce que j'appellerais la rigueur jurisprudentielle. Un système de décision et d'action, pour être fiable, nécessite une grande rigueur, c'est-à-dire un respect des règles, des procédures, des consignes. Le problème, c'est que la vie est indéterminée et il y a toujours nécessité d'écarts qui sont inévitables. La réaction classique, c'est la dissimulation des écarts. Et les quelque peu qui sont connus vont entraîner à nouveau la création de règles qui vont entraîner des écarts dissimulés et ainsi de suite. Donc il faut rompre par rapport à ce cercle infernal et c'est ce que j'appelle la rigueur jurisprudentielle, qui consiste en quoi ? Premièrement, considérer que les écarts éventuels ne sont pas pathologiques. Mais deuxièmement, faire que ces écarts qu'on considère non pathologiques soient transparents, c'est-à-dire qu'on en parle dans le débat interne, dans les débriefings, etc. Et c'est le débat interne qui va faire en quelque sorte la jurisprudence, qui va trancher sur les écarts. Est-ce qu'on admet l'écart à titre exceptionnel ? Est-ce qu'on le consolide dans une nouvelle règle ? Est-ce qu'on va l'intégrer dans un GVQ, c'est-à-dire un retour d'expérience qui servira de base à de nouvelles pratiques, etc. Alors, il y a un exemple, c'est celui de l'armée de l'air, parce que l'armée de l'air distingue deux types d'erreurs, les écarts involontaires, donc erreur de connaissance, erreur de règle, erreur de routine. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il distingue également des écarts volontaires, qui sont les violations de routine, les violations de nécessité et l'indiscipline. Et ce qui est très intéressant, c'est que les violations de nécessité et les violations de routine ne sont pas nécessairement condamnées. Elles vont être admises à deux conditions. Une première condition, c'est que l'écart soit professionnel. Par exemple, un pilote de chasse survole l'Afghanistan, compte tenu de la météo, il devrait voler à telle altitude. Mais il choisit de voler à une altitude qui est non réglementaire. Mais il continue parce qu'il considère qu'il y a des troupes au sol à protéger et que la vallée est suffisamment large, donc il peut se permettre de ne pas voler à l'altitude réglementaire. Et deuxièmement, ces écarts, ces violations doivent être transparentes, c'est-à-dire qu'elles doivent faire l'objet de briefing, débriefing. Par exemple, il y a 4 avions qui doivent partir en mission. Il y en a un qui est en panne et sur les 3 qui restent, il y a une panne radio. Normalement, ils ne devraient pas partir. Mais les pilotes choisissent de partir quand même. Mais lors du briefing, ils disent, on ne sera que 3 au lieu de 4, il y a une radio qui est en panne, comment on va s'organiser ? Et au retour, dans le débriefing, ils vont examiner comment ils se sont organisés dans cette situation dégradée, et ils vont éventuellement faire un GVQ qui va être utilisé ensuite dans les formations ou pour aider à d'autres situations de ce genre. Et donc la non-punition des erreurs et la rigueur jurisprudentielle forment ce qu'on commence à appeler dans certains milieux de la haute fiabilité, notamment aux États-Unis ou en Europe du Nord, la culture juste, just culture. Une méta-règle très importante aussi, je vais y passer un peu de temps, c'est le renforcement linguistique et visuel. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la sécurisation des échanges d'informations, un peu comme on trouve en aéronautique, hein, Alpha Bravo, ou bien les acteurs qui confirment ce qu'ils disent. Donc, c'est les répétitions, standardisation, confirmation, explicitation, éléments visuels. Dans ce renforcement linguistique, il y a plusieurs conditions. D'abord, ce renforcement linguistique doit être complètement collectif, interactif. Il existe une checklist de blocs opératoires. Eh bien, j'ai eu connaissance de deux chirurgiens qui, bien qu'ils aient devant les yeux la checklist de blocs opératoires qui leur indique est-ce que vous allez opérer du bon côté, se sont quand même trompés de côté. Et même mon propre chirurgien. Pas sur moi, je vous rassure. Deuxième condition, c'est que le renforcement linguistique doit être parcimonieux. Ça ne doit pas être une avalanche de bruit. Hein. On doit choisir les éléments sur lesquels on va mettre ce renforcement. Troisième condition, renforcement linguistique ne veut pas dire schématique. Parfois, ça peut vouloir dire écrire davantage. Hein. Par exemple, les listes à puces, ainsi, si à la mode grâce à Microsoft, eh bien, sont souvent appauvris par le manque de verbes. Et parfois, il y a intérêt à rédiger avec un sujet, un verbe, un complément. Et le renforcement linguistique ne signifie pas non plus électronique. Hein. Il peut être tout à fait rudimentaire, c'est-à-dire non électronique. Là, c'est une photo que j'ai prise sur le porte-avions Charles de Gaulle. C'est la maquette qu'utilisent les chiens jaunes pour gérer le pont. Les chiens jaunes, c'est ceux qui sont responsables de l'organisation du pont d'envol et du hangar. Et ils organisent le pont d'envol et le hangar à travers cette maquette très simple où les avions sont représentés, ce sont des petites maquettes en bois, il y a des petits cylindres pour indiquer si l'avion a le plein de carburant ou pas. Et lorsque j'ai posé la question aux chiens jaunes pourquoi ils n'utilisaient pas un système électronique, ils considéraient qu'ils n'avaient jamais trouvé quelque chose d'aussi fort que la simple maquette. Et même sur les porte-avions américains, c'est le même système. Autre exemple, ici, c'est l'avion radar. Une fois qu'il atterrit, les hélices continuent à tourner, donc c'est extrêmement dangereux. Donc tout le personnel de pont forme une haie d'honneur autour du Hawkeye pour bien montrer où se situe le danger. Alors, quelques exemples de renforcement linguistique des interactions. La checklist de blocs opératoires. Certains chirurgiens ont considéré que c'était un tsunami, tellement les résultats sont forts. L'expérience a été menée dans 8 hôpitaux dans le monde, pays développés, pays non développés, pays semi-industrialisés. Et près de 4000 personnes ont été opérées sans checklist. Et près de 4000 personnes ont été opérées avec checklist de blocs opératoires. Eh bien, on a observé, parmi les opérés avec checklist de blocs opératoires, une baisse de 57% de la mortalité. Dans la branche nucléaire de l'US Navy, le débat contradictoire était exigé pour une prise de décision, eh bien, le patron de l'US Navy exigeait que l'avis minoritaire, que la contre-proposition soit rédigée pour lui donner suffisamment de force. Il y a le management visuel japonais, qu'on connaît peu, mais qui est un peu caricatural, mais qui est une bonne illustration de l'importance que les Japonais accordent au renforcement visuel. Alors, il y a la méthode du doigt pointé, c'est-à-dire que pour les accidents du travail, il y a une méthode que les Japonais utilisent qui consiste à diriger son doigt vers le problème collectivement. Et il y a même, vous voyez, un schéma qui indique comment on doit pointer le doigt. Alors, ça nous fait certainement sourire. Comment on doit pointer le doigt pour appliquer cette méthode. Et vous voyez un groupe de salariés qui pointent le doigt ici sur un problème qui est écrit sur un paperboard. Et je rappellerai que le juste à temps, le Kanban, hein, ça a été au départ un renforcement visuel du niveau des stocks grâce aux étiquettes, hein, des étiquettes de couleurs. Et je vais vous donner un contre-exemple qui est la diapositive PowerPoint qui a été décisive concernant les décisions qui ont été prises concernant la navette Columbia qui a disparu parce que des tuiles avaient été détruites sur le revêtement. Donc voilà, alors d'abord, le titre est complètement adoucissant, il veut dire en quelque sorte rien de nouveau concernant les tuiles, hein, alors que le sujet c'était est-ce que le revêtement endommagé va permettre à la navette de rentrer correctement sur Terre. Et deuxièmement, l'information essentielle, hein, c'est la dernière ligne, veut dire qu'en fait, l'impact est 600 fois plus important que ce qui a été fait dans les tests. Or, ça apparaît en troisième rang dans la liste à puces, et le pire, c'est que les dirigeants ont eu comme compte-rendu du sujet que cette diapositive dans leur mail. Donc pour moi, c'est tout à fait un contre-exemple du renforcement linguistique nécessaire des interactions. Alors le retour d'expérience, ça c'est un sujet qui est un peu mieux connu, hein, qu'on appelle « j'ai vécu dans l'armée de l'air ». Je ne parlerai que d'une condition, c'est de sélectionner et rendre pédagogie. Parce que j'ai visité une centrale nucléaire et le directeur de la sûreté me disait « on a beaucoup de retours d'expérience, on en a des centaines, on ne sait pas très bien comment les gérer ». Or, le problème des retours d'expérience, c'est qu'il faut en sélectionner et les rendre pédagogiques. Et c'est que dans cette perspective qu'on peut vraiment les utiliser. Alors, la formation aux facteurs humains, qu'est-ce que la formation aux facteurs humains? C'est la formation aux mécanismes cognitifs, psychologiques et collectifs qui entrave ou facilite la prise de décision et l'action collective. C'est beaucoup plus que ce qu'on entend habituellement par formation au management, formation à la conduite de réunion, formation aux entretiens. C'est beaucoup plus profond, ça va beaucoup plus loin. Donc l'exemple classique, c'est la formation Crew Resource Management, la formation des équipages en aéronautique qui est devenue un standard, c'est-à-dire que les pilotes aujourd'hui sont formés à la sociologie et à la psychologie du cockpit, autant qu'aux problèmes techniques. Et alors un sujet très intéressant, c'est qu'il y a eu une expérience dans la Veteran Health Administration, qui a énormément d'hôpitaux aux États-Unis, et il y a eu une expérience sur des équipes chirurgicales qu'on a formées aux facteurs humains. C'est-à-dire qu'on a pris le chirurgien, les infirmières, l'anesthésiste, le perfuseur, et on les a formés ensemble sur les problèmes de communication, travail ensemble. On expliquait à une infirmière comment réagir si le chirurgien se trompe et qu'elle n'ose pas intervenir, etc. Eh bien, le résultat remarquable, c'est que dans les équipes qui ont été formées aux facteurs humains, on a observé une accélération de 50% de la baisse de la mortalité post-chirurgicale. Enfin, l'approche intégrée des coûts, c'est un sujet extrêmement important. Je n'ai pas le temps de développer ici, donc je vous renvoie à mon livre sur ce sujet. Je vais passer brièvement sur les méta-règles cognitives. Je vais les lister ici et je ne parlerai que l'une d'entre elles, je ne présenterai que l'une d'entre elles. Donc, les méta-règles cognitives, c'est-à-dire sur les façons de penser, c'est le refus de la simplification des analyses, une vision globale, le partage du cadrage, c'est-à-dire des considérations en amont et pas seulement de la mise en œuvre, la conscience que la science, que Simon appelle rationalité substantielle, conscience que la science ne peut tout résoudre. Donc nécessité de recourir à des solutions simples et robustes, hein, que Simon appelle la rationalité procédurale. Une prise en compte réaliste des probabilités, l'attention au risque de perte de sens, l'attention au risque d'aveuglement, un seuil de déclenchement des alertes relativement bas. Alors je vais uniquement développer l'idée que la science ne peut tout résoudre, C'est-à-dire que la rationalité scientifique substantielle ne peut tout résoudre et qu'il est nécessaire d'investir davantage sur la rationalité procédurale, c'est-à-dire les solutions simples et robustes. Alors, je vais donner deux exemples qui sont extrêmement différents. Le cas du risque d'avalanche dans les randonnées hors piste et le cas des atterrissages par mauvais temps. Donc, le problème des avalanches dans les randonnées hors piste. Alors, la solution traditionnelle, c'est d'appliquer la solution hyperscientifique de ce que j'ai découvert, le coin glissant. C'est-à-dire que vous êtes en randonnée et puis vous arrivez à une pente, vous demandez peut-être qu'il pourrait y avoir une avalanche. Donc, on découpe un grand cube dans la pente et puis on saute dessus et on voit si ça part ou pas. Et en fait, c'est une méthode qui n'est pas du tout fiable parce que, en fait, compte tenu que la pente est très hétérogène, il faudrait découper en coin glissant toute la pente pour être sûr qu'il n'y aura pas d'avalanche. Et par cette méthode ou d'autres méthodes sophistiquées de la rationalité substantielle, eh bien, on a beaucoup d'accidents. Alors, il y a un Suisse qui s'appelle Munter qui, lui, a changé complètement de perspective. Il s'est dit, d'abord, au lieu de chercher le risque zéro, on va accepter un risque résiduel, un risque équivalent au risque routier. Et il donne aux randonneurs une fiche toute simple, comme celle-ci, qui est selon que la pente est orientée au nord, est, sud, selon qu'elle est inclinée de 30, 35 ou 40 degrés. Alors, par exemple, si les randonneurs sont dans une zone orange, c'est-à-dire que le risque régional est marqué, la pente est orientée nord, l'inclinaison est entre 40 et 35 degrés, eh bien, on leur dit, vous pouvez passer, mais à condition qu'il y ait des distances de délestage et à condition que la pente soit régulièrement parcourue, ait été régulièrement parcourue. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très fiable. Il y a considérablement moins d'accidents par cette méthode. Le nombre de tués a été divisé par 10. Et il y a même une statistique, j'ai vu une statistique dans un journal de montagne spécialisé, où le nombre de tués en France reste à un niveau élevé, alors qu'en Suisse, il baisse jusqu'à un niveau relativement faible, grâce à cette méthode Munter. Alors, deuxième exemple, c'est les atterrissages par mauvais temps, où là, on se plaît à utiliser la méthode substantielle, la rationalité substantielle hyperscientifique. Alors, le problème des atterrissages par mauvais temps, c'est que quand il fait mauvais, la piste est glissante, parce qu'il y a de la pluie ou de la neige, il y a du vent, et donc les pilotes doivent déterminer si la distance de freinage, d'atterrissage, va être suffisamment longue par rapport à la longueur de la piste. Donc, ils ont des tableaux très sophistiqués, hyper scientifiques. Ça, c'est le cas d'un Fokker pour les lignes intérieures canadiennes, qui va leur dire, par exemple, si il y a de l'eau entre 0,1 pouce ou 0,03 pouce sur la piste, eh bien, votre freinage sera 30% d'un freinage normal. Alors, compte tenu du vent, du poids de l'avion, il faut un calcul savant pour déterminer la distance d'atterrissage pour savoir si la piste est suffisamment longue. Le problème, donc, ça ne marche pas parce que la situation peut changer en quelques minutes. L'averse peut redoubler, il peut y avoir un coup de vent. Donc, il y a beaucoup d'accidents à l'atterrissage par mauvais temps, enfin, relativement. Et dans le cas d'un Fokker, les pilotes avaient été informés que la piste avait été balayée, il y avait de la neige, donc ils ont considéré qu'elle était humide. Donc ils ont pensé que leur niveau de freinage était 70% d'un freinage normal. Mais, manque de chance, il y a eu une averse de neige mouillée et leur freinage est passé à 20% d'un freinage normal. Donc la piste qu'ils pensaient suffisante n'était plus suffisante et l'avion est sorti de la piste. Alors, il y a aussi la méthode sophistiquée des véhicules de test du niveau de friction, mais ça ne marche pas mieux parce que les précipitations et le vent peuvent changer en quelques secondes, quelques minutes. Il y a un contrôleur, le responsable du contrôle aérien d'Amsterdam, qui disait, Schiphol, qui disait, le temps qu'on envoie le véhicule, qu'il revienne, qu'on passe l'information au contrôleur, que l'information soit envoyée au pilote, la situation a pu se dégrader sur la piste, donc ça ne marche pas. Donc, il est nécessaire d'utiliser la rationalité procédurale dans ce domaine, c'est-à-dire des possibilités d'attente et de déroutement plus larges et simples, mais ça fait bien entendu hurler les compagnies parce que ça demande un peu plus de carburant et ça coûte cher. Il faut savoir que dans l'accident de Toronto où l'avion a passé le bout de piste, eh bien les pilotes avaient le choix soit d'atterrir à Toronto, soit de se dérouter sur Ottawa avec 5 heures de car pour les passagers pour rejoindre Toronto. Donc je dirais en conclusion que ces méta-règles de la haute fiabilité des actions et des décisions constituent en quelque sorte, par les idées qu'elles contiennent, une sorte de contre-culture de la pensée classique en management. Et donc je vais vous présenter rapidement l'opposition des idées entre d'un côté le management politiquement correct et puis la philosophie de la haute fiabilité. Donc le management politiquement correct, il met l'accent sur les outils de qualité et les certifications. C'est une grande mode. Alors que les méta-règles de la fiabilité vont plutôt insister sur la culture amont de la fiabilité. Dans une centrale nucléaire, on m'a dit, bon, bien sûr, il y a les outils de la sûreté, mais ce qui est très très important, c'est aussi la culture de la sûreté. Et donc je pense qu'à Fukushima, le problème, ce n'était pas un problème d'outils de la sécurité, mais un problème de culture de la sûreté. Dans le management politiquement correct, c'est la foi dans les réorganisations. C'est un sport universel. À chaque fois qu'un patron arrive, eh bien, il réorganise. Alors que la haute fiabilité va plutôt mettre l'accent sur les processus. Le management classique, c'est la sanction positive ou négative. Alors que dans la philosophie de la haute fiabilité, c'est plutôt le principe de non-punition des erreurs non intentionnelles. En management classique, le slogan, c'est « Speak with data ». Alors que la haute fiabilité dit eh bien, il faut accepter des alertes, des signaux faibles qui ne soient pas forcément fondés sur des grandes démonstrations. Dans le management politiquement correct, c'est l'action qui est privilégiée et non pas le retour d'expérience. Après un problème, on passe vite à la suite, à l'action. Alors que la haute fiabilité est fondée sur l'idée que ce qu'on a vécu est essentiel pour assurer la fiabilité future, donc importance des retours d'expérience. Le management politiquement correct, c'est la faible sensibilité aux signaux faibles, alors que la philosophie de la haute fiabilité, c'est une grande sensibilité aux signaux faibles. Bon, je caricature un peu parce que je suis obligé d'aller vite. Bien sûr, dans ce que j'écris, c'est beaucoup plus nuancé. Le management classique met l'accent sur le leader, alors que les méta-règles de la fiabilité vont insister sur l'organisation de l'équipe et la distribution du pouvoir à l'intérieur. Dans le management classique, c'est la valorisation des messages simples, alors que la haute fiabilité dit qu'il faut accepter la complexité des situations et des analyses. En management classique, il y a des vérités qui ne passent pas, non pas parce qu'on considère qu'elles sont fausses, mais simplement parce qu'on considère qu'elles sont trop compliquées. Il faut accepter la complexité. Alors le politiquement correct en management, c'est les réunions courtes et peu nombreuses. Mais si on veut organiser du débat contradictoire, des réunions plus longues et plus nombreuses sont nécessaires. On ne peut pas en faire l'économie. Dans le management classique, on valorise beaucoup le consensus, alors qu'il ne peut pas avoir une valeur absolue. Les solutions scientifiques sont très mises en avant dans le management classique, alors que la haute fiabilité va mettre aussi en avant des solutions simples et robustes. Bon, dans le management traditionnel, les écarts aux règles sont sanctionnés ou dissimulés, alors que la philosophie de la haute fiabilité, c'est ce que j'ai appelé la rigueur jurisprudentielle, où les écarts peuvent être discutés et éventuellement validés. Donc, je passe sur la formation. Dans le management classique, les communications sont schématiques, numériques et abondantes, alors que dans la philosophie de la haute fiabilité, il faudrait qu'elles soient plutôt renforcées, visuelles et parcimonieuses. Dans le management classique, on met l'accent sur la cible, la destination, alors que la haute fiabilité implique la capacité, le courage de pouvoir revenir sur une décision. Et enfin, je terminerai par là, dans le management classique, s'il y a une catastrophe, Le principe, c'est de l'oublier et passer rapidement à autre chose. Alors que la haute fiabilité, c'est s'il y a une catastrophe, eh bien, il faut en faire l'événement fondateur du renouveau. C'est le principe de résilience. Donc, je ne vais pas passer tous ces exemples de résilience. Je vais citer celui des sous-marins américains. Il y a eu un traumatisme à l'US Navy qui a été le naufrage du Stretcher. Eh bien, au lieu d'oublier en quelque sorte cette catastrophe, l'US Navy a décidé d'en faire l'élément fondateur d'un renouveau de la fiabilité et a déclenché à partir de là son programme SubSafe qui a irrigué toute l'entreprise et qui même a servi à la NASA comme benchmarking pour suite à son renouveau après les catastrophes de Challenger et de Columbia. Par exemple, en matière de justice, on peut se poser la question, est-ce que l'affaire d'Outreau a été la catastrophe qui a été la base d'une réflexion de renouveau de la justice? J'ai mis des points d'interrogation. Donc, voilà, les méta-règles donnent l'impression d'être très exigeantes, c'est certainement l'impression que vous retirez, mais des organisations, il est vrai, stimulées par le risque, ont réussi à les mettre en œuvre. Et si on change de cadre de référence, elles sont plus facilement réalisables. Et peut-être faudrait-il voir ce que j'ai appelé les méta-règles, ces processus fondamentaux de la fiabilité, comme composant une éthique de la décision et de l'action. On n'est jamais conforme à une éthique à 100%, mais elle reste un guide puissant, une ardente obligation. Donc maintenant, place au débat contradictoire qui, je n'en doute pas, sera accompagné de renforcements linguistiques efficaces.